le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche matin sur France Culture. Vous êtes à l'écoute du service protestant. Aujourd'hui, nous accueillons le pasteur Jean-Yves Péter de l'UNEPREF, l'Union nationale des églises protestantes réformées évangéliques de France, à la Grand-Combe, dans le Gard. Nous sommes en Galilée, au commencement du ministère de Jésus. Le Christ appelle 12 disciples et part avec eux à la rencontre des Juifs et des nations. La parole du Messie apporte la guérison et provoque beaucoup d'étonnement. Écoutons cette parole en compagnie du pasteur Jean-Yves Péter.
Bonjour, Dieu nous invite et nous réunit ce matin dans la fraternité offerte par le nom de Jésus-Christ, le nom par lequel nous recevons et partageons la grâce et la paix, le salut et l'espérance dans la liberté véritable de la foi. Pour moi, chante David, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bienveillance de Dieu pour toujours et à jamais. Je te célébrerai éternellement, car tu as agi. Je veux espérer en ton nom, parce que tu es bon à l'égard de tes fidèles. Je vous invite à nous joindre à la louange de David. C'est vrai, Seigneur, tu as agi comme tes prophètes l'avaient annoncé. Tu es venu, en Jésus-Christ, subir et vaincre l'orgueil et la mort qui s'étaient emparés des hommes. Par le miracle de ta fidélité, tu t'es fait notre victime pour être notre sauveur. Tu as subi notre condamnation pour nous offrir la libération, une nouvelle naissance dans l'œuvre magnifique de ton amour, dans ta création éternelle. Et de ton esprit, de ton amour avec nous, de ta victoire en nous, nous recevons, Seigneur, tout notre honneur et tout notre bonheur. Toute notre joie de vivre dans l'espérance de ton retour. Voilà pourquoi, avec David, nous célébrons ton nom, parce que ton nom est Jésus-Christ, le nom de ta fidélité, le nom de notre salut. Amen. Un jour, en Galilée, un docteur d'Israël se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi ? Que lis-tu » Celui-ci répondit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Ce dialogue nous invite à nous présenter nous-mêmes devant Dieu, en vérité. Seigneur, comme ce docteur de la loi, nous connaissons ton commandement et nous nous efforçons de l'honorer, car nous croyons qu'il fait vivre quiconque l'observe. Mais devant toi, nous ne voulons pas jouer une comédie religieuse pour te dire « Oui, voilà ce que nous approuvons et ce que nous faisons. Permets-nous plutôt, Seigneur, de te confier nos pensées, nos paroles et nos actes qui n'ont pas été, qui ne sont pas conformes à l'amour. Tu les connais mieux que nous-mêmes. Nous voudrions aimer, mais nous jugeons. Nous voudrions partager, mais nous possédons. Nous voudrions vivre, mais nous mourrons. Et nous n'y pouvons rien, sinon en appeler à toi, en appeler au secours de ta fidélité, de ton pardon. Seigneur, notre âme est attachée à la poussière. Sauve-nous, fais-nous vivre selon ta parole. Et voici la réponse du Dieu d'Israël à tous ceux qui se repentent devant lui, tous ceux qui lui confient l'amour qu'ils n'arrivent pas à offrir, l'accusation qu'ils ne peuvent pas repousser. N'ayez pas peur. J'ai tant aimé le monde que j'ai donné mon Fils, l'unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Entendez, je ne suis pas le Dieu qui condamne, mais le Dieu qui sauve, et là où abonde le péché, ma grâce surabonde. Recevons joyeusement, ce matin, ce don, ce pardon de Dieu. Recevons Jésus-Christ vainqueur, parce qu'il s'est fait notre frère, jusque dans la mort, afin qu'avec lui nous ressuscitions dans sa victoire, dans son amour qui ne succombe jamais. Que tout notre être célèbre le salut du Dieu vivant. Amen.
Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi.
Si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Seigneur, tu nous as rassemblés ce matin à ton écoute. Nous t'en remercions et te demandons, par ton esprit, d'ouvrir notre vie à ta parole, afin qu'elle nous enseigne dans la vérité et la liberté de ton amour. Amen. Écoutons ce matin l'évangile de Luc, au chapitre 6, témoigner l'action et l'enseignement de Jésus parmi la foule. Après avoir choisi 12 de ses disciples, auxquels il donna le nom d'apôtres, Jésus se rendit avec eux sur un plateau où se trouvait une grande foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors, il leva les yeux sur ses disciples et dit « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur père agissait à l'égard des prophètes. Mais malheur à vous, les riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur à vous lorsque tous les hommes parleront bien de vous, car c'est ainsi que leur père agissait à l'égard des faux prophètes. Parmi tous ses disciples, Jésus vient d'en choisir 12, auxquels il donne le nom d'apôtres, ce qui signifie envoyé, chargé de mission. Nous pouvons voir dans ces 12 apôtres la préfiguration de l'Église elle-même. L'Église qui n'est pas autre chose qu'une mission, la mission des 12, la mission d'annoncer au monde la venue, en Jésus-Christ, du salut de Dieu, du salut du monde. Quand je dis l'Église, je dis bien sûr toute l'Église, toute dénomination confondue, ou plutôt toute dénomination ajoutée. Ce chiffre 12 est un chiffre hautement symbolique dans la Bible. Il signifie en soi l'étendue du salut de Dieu. Un chiffre qui désigne le peuple de Dieu, un peuple d'abord appelé comme les 12 familles d'Israël, et un peuple ensuite envoyé comme les 12 apôtres de Jésus-Christ, l'Église. Un chiffre qui annonce l'expansion du salut de Dieu dans toutes les directions du monde, comme les 12 chiffres d'une horloge indiquent toutes les directions. Et Jésus, en effet, emmène les 12 à la rencontre du monde, de la multitude des peuples, est-il écrit. Il s'agit donc bien d'une préfiguration de l'Église, elle-même emmenée par Jésus à la rencontre de tous les peuples du monde, dans toutes les directions. Ces peuples, écrit Luc, sont venus pour entendre Jésus et être guéris. Entendre et être guéris. Ainsi, la guérison est l'œuvre de la parole de Dieu entendue. Et la mission des 12, de l'Église, c'est donc de faire entendre cette parole qui guérit. Cette parole venue dans le monde, pour tout le monde, en la personne de Jésus-Christ. De quoi cette multitude de peuples veut-elle être guérie? Cela n'est pas précisé, mais est-il nécessaire de dresser la liste des maladies de l'humanité? De souligner à quel point elle semble maudite, cette humanité, condamnée à passer de violence en violence, de souffrance en souffrance, sans arrêt, sans fin? L'humanité, des femmes et des hommes soumis à quémander ce qu'ils espèrent et désespèrent de trouver. La paix, le bonheur, la joie de vivre, au lieu de la peur de souffrir, de mourir. Fais-nous grâce, Seigneur, fais-nous grâce, priait David, car nous sommes trop rassasiés de mépris. Nous voulons vivre, mais nous ne pouvons que mourir et tuer et nous entretuer. N'est-ce pas là notre maladie dont nul n'est épargné, d'une façon ou d'une autre, autrefois comme aujourd'hui? Nous entendons ce cri aujourd'hui dans notre pays. Nous l'entendons dans sa vérité et dans son impuissance. Et c'est pourquoi il nous fait mal, à tous, que nous enfilions ou pas un gilet jaune. Nous voulons être heureux. Alors, peut-être qu'un peu plus d'argent, mais combien? Un peu plus d'écoute, mais savons-nous vraiment quoi dire? Nous voulons être heureux. Cela semble tellement juste et tellement impossible. C'est l'appel, le cri de tous les peuples, quel que soit leur niveau de vie comparé ou incomparable, peu importe. La vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède, enseigne Jésus. La vie d'un homme dépend de ce qu'il écoute ma parole ou ne l'écoute pas. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, témoigne Luc. Il est d'usage d'entendre là une façon archaïque de parler d'épilepsie, de convulsions ou de démences diverses. Mais toute la foule, précise Luc, voulait le toucher parce qu'il les guérissait tous, toute la multitude des peuples. Toute cette multitude, bien sûr, n'était pas épileptique, démente. Ces esprits impurs désignent donc beaucoup plus que telle ou telle affection pathologique. Ils désignent tout ce qui peut détourner un homme, une femme, d'écouter Dieu, de s'en remettre à sa parole pour vivre. Il désigne tout ce que la Bible résume dans le serpent de la Genèse. qui inspire à l'homme et la femme l'orgueil de se passer de Dieu, l'orgueil de vivre, de bien vivre par eux-mêmes et pour eux-mêmes, et finalement de se contenter de mourir. C'est tellement banal, normal. C'est le piège du tueur, le piège du péché, qui n'est pas une mauvaise action, mais une mauvaise décision. La décision d'écouter l'esprit impur dont Jésus vient nous guérir. Nous guérir tous les peuples, de l'angoisse d'une vie condamnée à souffrir un jour ou l'autre et à mourir quand la mort le voudra. Nous guérir d'une vie condamnée à l'absurde, toujours aussi absurde aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Nous voulons être heureux. Mais le bonheur, qu'est-ce que cela peut bien être tant qu'il y a la mort? Cependant, il semblerait que ce Jésus apporte une réponse, une vraie réponse. Là où il passe, la mort semble reculer. Alors de partout, on accourt à sa rencontre, on veut le toucher, et lui, que fait-il? Il parle. Tout le monde veut être guéri, mais lui n'est pas un guérisseur. Il est infiniment plus que cela. Il est le sauveur. Ce dont sa parole guérit, ce n'est pas d'être malade, ce n'est pas de souffrir, c'est de mourir, d'exister pour rien. Jésus parle afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas étonnant? Et ce qu'il dit alors aux 12, à ceux qu'il envoie vers les foules perdues, ce qu'il dit est bien plus qu'étonnant, inconcevable, insupportable même, pour tous ceux qui réclament le bonheur. Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Le récit précise, et c'est important, que Jésus n'adresse pas cette parole à la foule, mais à ses disciples. Comment, en effet, la foule avide de bonheur pourrait-elle supporter une telle parole? Ce n'est donc pas une parole que l'Église pourrait asséner à ceux qui cherchent une solution, quel que soit le problème, mais une parole à comprendre pour ceux qui écoutent Jésus. Quelle est cette pauvreté dont il parle, dont il se réjouit pour ses disciples? Jésus enseigne-t-il que le vrai bonheur est d'être matériellement démuni? Et dès lors, en tant que chrétiens, dirons-nous à ceux qui sont démunis « Ah, comme vous êtes heureux d'être pauvres !» La réponse nous vient d'elle-même. Bien sûr que non. Jésus n'est pas cynique. Et quand bien même l'Église a souvent été accusée d'exhorter les humbles à se satisfaire de leurs conditions en leur promettant pour l'au-delà le bonheur qui n'était pas pour eux ici-bas et cela au profit des classes privilégiées, c'est bien en vérité et d'évidence le contraire qui se produit. Là où l'Évangile est annoncé et entendu, l'injustice sociale recule, lentement, mais sûrement. Mais alors, si ce n'est pas de pauvreté matérielle, de quelle pauvreté Jésus parle-t-il? Réponse: la pauvreté dont parle Jésus, c'est la pauvreté qu'il vient lui-même combler. La pauvreté de sens, la pauvreté d'espérance, la pauvreté de joie. La joie que seule peut apporter une vraie raison de vivre, fondée dans une vraie possibilité de vivre, malgré la mort. Jésus vient combler ceux qui sont pauvres du salut de Dieu, ceux pour qui la vie n'est qu'un malheureux hasard, une lutte insensée et désespérée contre la mort. Sans Dieu, sans le salut de Dieu, sans Jésus, la vie ne peut être qu'une course désespérée et désespérante après un bonheur dont on ne sait même pas en quoi il peut consister. Un bonheur qui s'éloigne sans cesse quand on croit s'en approcher comme un mirage dans le désert. Sans le salut de Dieu, la vie n'est qu'une condamnation à mort qui humilie l'humanité dans une fatalité de souffrance et de sang. Et tout ce que l'on peut amasser de biens matériels s'avère ridiculement impuissant à combler cette insoluble pauvreté. Heureux, vous les pauvres, signifie donc « Heureux êtes-vous, vous qui êtes pauvres en espérance, pauvres en délivrance, prisonniers d'une vie insensée, d'une vie pour la mort. Soyez heureux, car je vous apporte cette délivrance. Je vous apporte la guérison. Je vous apporte l'amour, l'amour plus vrai que la mort. Heureux êtes-vous si vous m'écoutez, car le royaume de Dieu est à vous, c'est-à-dire l'amour de Dieu s'offre à vous pour être en vous désormais la possibilité de vivre, car vivre, c'est aimer. Et nul ne peut aimer s'il est réduit à convoiter ce qu'il ne possède pas ou à défendre ce qu'il possède. Heureux êtes-vous si vous réalisez, en m'écoutant, que tout ce que vous possédez ou convoitez n'est que pauvreté, illusion de puissance, la mort déguisée en bonheur. Heureux êtes-vous si vous entendez, si vous recevez de moi, en moi, toute votre richesse, la possibilité d'aimer parce que vous êtes aimé et non pas jugé. La possibilité de partager parce que vous avez tout reçu. Heureux êtes-vous, car vous possédez maintenant une joie qu'aucun malheur, aucune privation de ce monde ne pourra plus vous enlever. Heureux êtes-vous si vous vous entendez appeler, consoler, rassasier par cet amour, par ces étranges paroles. Heureux êtes-vous si vous entendez qu'avec moi, votre avenir n'est plus la mort, mais la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et heureux serez-vous si, à cause de cela, le monde vous rejette, vous insulte, vous déteste, parce que l'orgueil et la mort s'en prennent à ceux qui leur échappent, à ceux qui leur sont enlevés par la foi, à ceux qui désormais annoncent librement leur défaite, à ceux qui partagent parce qu'ils ne sont plus eux-mêmes possédés, à ceux qui pardonnent parce qu'ils n'ont plus rien à défendre. Ces paroles sont un appel, mais aussi un avertissement. Attachez-vous à moi, car tout le bonheur que le monde fait miroiter devant vous, le bonheur d'avoir ce que d'autres n'ont pas, le bonheur d'être épargné des épreuves des autres, le bonheur d'être admiré parce qu'on dit ce que les hommes veulent entendre, parce qu'on promet ce qu'ils convoitent, ce bonheur, c'est la mort qui vous séduit, qui vous flatte, qui vous gave peut-être, pour mieux vous dépouiller de tout, de toute votre vie. Je rends grâce à votre sujet, écrit l'apôtre Paul à l'église de Corinthe et à toutes les églises. Je rends grâce à votre sujet de ce qu'en Jésus-Christ, vous avez été enrichi en toutes choses et qu'ainsi, il ne vous manque aucun don. Quelle que soit notre situation, il faut assurément la puissance de la foi pour être convaincu d'une telle chose, convaincu de n'avoir désormais plus rien à attendre du monde, mais au contraire, tout à lui offrir, parce que Dieu lui-même s'est offert à nous comme notre avenir. C'est cela, la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alors, face au monde qui sans cesse appelle « au secours, nous voulons vivre et nous mourrons », au secours, nous voulons nous réjouir et nous pleurons. Au secours, nous voulons la paix et nous avons la peur. Pour ce monde, pour tout le monde, la réponse est venue. Elle n'est plus au-delà. Elle est là maintenant. Je suis là, dit Jésus le Christ. Je suis là et je ne vous laisserai plus. Je vous guérirai. Vous ne serez plus de ceux qui mendient ou qui possèdent, mais de ceux qui partagent. Vous ne serez plus de ceux qui pleurent ou se plaignent, mais de ceux qui consolent. C'est le miracle que je viens accomplir pour vous, en vous. Quel miracle ? Être aimé pour être libre. être libéré pour aimer. Vous êtes heureux si vous entendez en cela toute votre richesse, la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre bonheur. Et si ce bonheur s'est offert à vous par l'appel du Seigneur, je vous invite à confesser ensemble son salut. Oui, je crois que Dieu m'a donné la vie. Je crois qu'il est mon Père. Je crois que Dieu m'a sauvé la vie. Je crois qu'il est mon frère, Jésus-Christ, mon libérateur, mort à cause de mon péché, ressuscité pour mon salut. Il reviendra nous emmener auprès de lui, dans la maison du Père. Oui, je crois que Dieu nous enseigne la vie, qu'il nous révèle toutes choses selon la vérité. Je crois qu'il est l'Esprit Saint, le défenseur et le consolateur. Je crois qu'il nous conduit dans l'Église à l'œuvre de son amour, jusqu'en vie éternelle. Amen. Alors, avec lui, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas soumis à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Que l'assurance du don de Dieu soit notre paix à l'œuvre de sa grâce, au partage de notre libération. Il est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Il est le Dieu fidèle. Il bénit et conduit ceux qui écoutent sa parole et en suivent le chemin dans l'œuvre de son amour qui emplit le monde. Allez heureux avec lui, dans sa paix et sa lumière. Amen.
Le service protestant de ce dimanche matin sur France Culture s'achève. Heureux les pauvres. C'était le thème de la méditation du pasteur Jean-Yves Péter de l'UNEPREF, l'Union nationale des églises protestantes réformées évangéliques de France, à la Grand Combe, dans le Gard. Un grand merci à vous pour votre écoute. À la réalisation Thomas Jost, à la prise de son Olivier Dupré. Le service protestant sur France Culture vous est proposé par le service radio de la Fédération protestante de France, présenté par Olivier Betty. Si vous souhaitez réécouter cette méditation, je vous propose de vous rendre sur les sites franceculture.fr et protestant.org. Si vous désirez recevoir le texte de ce dimanche matin ou nous faire part de vos réflexions, écrivez-nous au service radio de la Fédération protestante de France. Nous sommes au 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Dès 9h, vous retrouvez la rédaction de France Culture pour le journal, suivi de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wachnin. Beau dimanche à tous et à chacun.